Une sœur ce matin a exprimé dans sa prière son fardeau pour l'incrédulité. Je pense que vous avez entendu ce mot qui a été prononcé. Cette incrédulité qui nous fait mal, hein, telle que nous la voyons autour de nous et quelquefois malheureusement aussi dans nos cœurs. J'avais préparé pour ce matin un beau PowerPoint et puis j'ai laissé la clé USB sur mon bureau. J'en suis désolé, c'est dommage. Mais bon, il faudra vous débrouiller avec vos Bibles. J'espère que tout le monde a une Bible, hein, pour pouvoir lire les textes que je vous propose. J'ai intitulé mon message « Un procès où l'accusation se retrouvera finalement au banc des accusés ». Ça, ce n'est pas ordinaire comme procès, hein. Pour ça, on va lire Jean chapitre 5, la suite de ce que je fais habituellement, hein. Jean, évangile de Jean, chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 31. Jean 5, à partir du verset 31. Je replace quand même un tout petit peu ce passage dans le contexte de ce chapitre. Ce chapitre a commencé par une guérison miraculeuse que Jésus a opérée sur un homme qui ne lui demandait rien d'ailleurs, qui était au bord d'une piscine, où le fait de se plonger dans l'eau au moment où elle était agitée permettait d'être guéri de n'importe quelle maladie. Bon, il n'a pas eu besoin de se plonger, Jésus l'a guéri. Et il lui a dit, ben voilà, t'es guéri, porte ta natte là et puis tu rentres chez toi. Et les Juifs, les chefs des Juifs, ont été scandalisés. Scandalisés d'une part parce qu'il avait guéri un jour de sabbat. On a l'impression qu'il faisait presque exprès de guérir les jours de sabbat, Jésus. Je pense que pour les titiller un peu. Et puis aussi parce qu'il avait dit à cet homme de porter sa natte. Et ça, interdit. On ne porte pas quelque chose, même une natte, le jour du sabbat. Bon. Alors du coup, Jésus a dû se justifier en quelque sorte des accusations qu'il portait contre lui. On a déjà vu qu'il avait expliqué qu'en fait, il ne faisait que faire ce que le Père lui donnait à faire. Alors ça, le Père. Mais pour qui il se prend celui-là? Il appelle Dieu son propre Père? Blasphème! Scandale! Et donc ce texte continue cette histoire, celui que nous allons lire. Donc je lis à partir du verset 31. Donc c'est Jésus, hein, qui se défend devant les accusations des Juifs, là, des chefs des Juifs, des religieux. « Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable. Mais j'ai un autre témoin, et je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean, Jean le baptiseur, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur. Mais je dis cela pour que vous, vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment un homme, était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous, vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Mais vous, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? N'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Quel est le mot qui revient le plus souvent dans ce texte ? Oui ? Oui, il y en a un autre. Comment ? Mon père, oui. Mais surtout dans les premiers versets que nous avons lus. Je donne un petit indice. Témoignage. Témoignage, témoin. Oui. Donc, un terme du vocabulaire juridique. Absolument. Du vocabulaire d'un procès. Dans tout procès, il y a une accusation qui va citer des témoins à charge. Et l'accusé va pouvoir se défendre lui-même et aussi citer des témoins à décharge. Alors l'accusation. Eh bien, les accusateurs, ce sont les chefs des Juifs, des chefs religieux, dans cette société très théocratique qui était l'Israël de l'époque, qui accusent Jésus. Ils avaient déjà bien d'autres griefs contre lui. Par exemple, son nettoyage du temple à Jérusalem qu'il n'avait pas du tout apprécié. Mais dans ce passage, c'est parce qu'il a guéri un homme un jour de sabbat et qu'il lui a ordonné de porter sa natte. Donc à leurs yeux, une double violation du sabbat. Ils étaient particulièrement pointilleux sur l'observation stricte de cette institution divine transmise par Moïse. D'une part, ils assimilaient une guérison à un travail, ce qui est déjà un peu curieux, mais bon. Et d'autre part, il avait fait violer le sabbat à l'homme guéri en lui ordonnant de porter sa natte. Autre travail interdit, selon eux, durant le sabbat. Et de plus, selon eux, Jésus blasphème en appelant Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Ça, c'est l'accusation. Alors la défense. Jésus va se défendre de ces accusations en affirmant qu'il ne fait que faire les œuvres que son Père, le Dieu d'Israël, lui a donné à faire. Ces miracles qu'il accomplit, en particulier ces guérisons miraculeuses, et qu'il fera des œuvres bien plus grandes encore. Vous rappelez, quelle est l'œuvre la plus grande que va faire le Seigneur Jésus ? Donner plus que la guérison, la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Et puisque les Juifs l'accusent, il va citer à la barre de son procès des témoins à décharge. Alors il fait d'abord une allusion rapide à Jean le Baptiseur. Mais il précise aussitôt qu'il n'a pas besoin d'un homme pour témoigner en sa faveur. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste avait donné un témoignage sans équivoque de la personne de Jésus, quand même. Lorsqu'il voit Jésus venir vers lui, il s'écrie en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Un peu plus loin, verset 32, toujours au premier chapitre, à l'occasion du baptême de Jésus, il déclare « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. » Mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans l'Esprit Saint. » Or cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je l'atteste solennellement, dit Jean-Baptiste. Cet homme est le Fils de Dieu. Malgré cela, les Juifs n'ont pas cru au témoignage de Jean. Jésus compare Jean à un flambeau qui brûle et qui brille, dirigeant seulement les regards vers celui qui est la vraie lumière. Mais ils ont simplement voulu, pour un temps, se réjouir à sa clarté, dit Jésus. Autrement dit, l'appel de Jean-Baptiste à une repentance radicale et à accueillir leur Messie n'a eu chez eux qu'un impact limité et transitoire, éphémère. Alors Jésus va maintenant expliquer qu'il dispose de deux témoignages qui ont beaucoup plus de poids que celui de Jean-Baptiste, car il s'agit de témoignages de Dieu lui-même, et non d'un homme, bien que Jésus ait dit de Jean-Baptiste en Matthieu 11, verset 11, « Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Donc c'était quand même pas rien. Alors le premier témoin que Jésus invoque, c'est les œuvres, hein, ses œuvres miraculeuses. Les œuvres qu'il accomplit et qui témoignent que c'est bien le Père qui l'a envoyé. Il s'agit de ses œuvres de guérison miraculeuse et d'exorcisme de démons aussi. Hein. Par exemple, lorsqu'il a chassé un démon qui rendait un homme muet, la foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël !» On trouve ça en Matthieu 9, verset 33. Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » La foule s'émerveille, mais les pharisiens récusent l'origine divine de ce miracle et vont jusqu'à suspecter une origine diabolique. Cette attitude est d'ailleurs celle que Jésus qualifie de péché contre le Saint-Esprit, qui ne peut être pardonné ni en cette vie, ni dans la vie future. En effet, on peut lire en Matthieu 12, verset 32, « Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, » ça c'est un truc qui vous avait surpris, nos amis africains, parce qu'ils ont regardé le film Jésus hier soir chez moi, il parle toujours de lui comme le Fils de l'homme. Pourtant, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Bien sûr, c'est une petite difficulté. Donc je relis Matthieu 12, 32, « Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne sera pas de pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » Et le fait d'attribuer les œuvres de Dieu à l'ennemi, à Satan, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Second témoin que Jésus appelle à la barre, c'est tout le témoignage des Écritures qui atteste qu'il est bien le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui seul peut donner la vie éternelle. Moïse a écrit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, verset 15, « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais en réalité, il n'y a pas que cette parole de Moïse. Toutes les dispositions de l'ancienne alliance pointent vers la révélation progressive du plan rédempteur de Dieu, et ce plan passe par le Christ. Toutes les ordonnances de la loi mosaïque préfiguraient la nécessité d'un sacrifice unique et définitif qui seul pourrait apaiser la colère de Dieu contre le péché. Rappelez-vous que Jésus, une fois ressuscité, s'est joint à deux hommes qui revenaient de Jérusalem et qui allaient à Emmaüs, un petit village s'appelait Emmaüs. Et ils étaient très tristes parce que ils pensaient que Jésus allait être le sauveur d'Israël, le Messie, qui allait délivrer Israël des Romains et tout ça. Alors il se joint à eux Et chose extraordinaire, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et il leur dit, le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Vous êtes triste là, mais je suis ressuscité. Hein? Le Fils ne devait-il pas souffrir ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et par tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. On aurait aimé être avec eux et écouter ça. Hein? Ça devait être un enseignement. Voilà. Alors on voit donc que Jésus a contré l'accusation des Juifs par deux témoignages exclusivement divins et de ce fait inattaquables, et que ces deux témoins sont les œuvres de Dieu, à savoir les miracles accomplis par Jésus en faveur d'une humanité déchue et souffrante, et la parole révélée de Dieu, à savoir les écrits de l'Ancien Testament, de Moïse et des autres prophètes. C'est d'ailleurs par cette même parole, rappelez-vous, qu'il a fermé la bouche à Satan lors de la tentation au désert. Alors à son tour, Jésus, qui devait se défendre, va accuser ses accusateurs, à savoir les autorités juives qui s'opposent à lui. Alors il leur dit, si vous ne me croyez pas, c'est pour 5 raisons. Vous avez peut-être noté au passage dans cette lecture. 1. C'est parce que vous n'avez jamais entendu la voix ni vu la face du Père. C'est le verset 37. 2. C'est parce que sa parole n'habite pas en vous. Verset 38. 3. C'est parce que vous ne voulez pas recevoir la vie. Verset 40. 4. C'est parce qu'au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Et 5, c'est aussi parce que vous recherchez votre gloire les uns des autres et non de Dieu seul. Donc vous voyez que ces accusations de Jésus mettent le doigt sur le problème dramatique de l'incrédulité. L'incrédulité de ses adversaires. On va reprendre un peu ces accusations, parce qu'elles sont terribles. Hein, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu la face de Dieu, du Père. Ils étudiaient avec soin les Écritures, convaincus d'en obtenir la vie éternelle. On l'a lu au verset 39. Mais cette étude ne débouchait pas sur une véritable relation avec le Dieu vivant. À l'inverse de Moïse, par exemple, dont la Bible nous dit qu'il parlait avec le Seigneur face à face, et que même son visage brillait quand il avait parlé avec Dieu. Sa parole n'habite pas en vous. Il l'étudiait soigneusement, cette parole, mais elle n'habitait pas en eux. Il ne faisait qu'en appliquer les préceptes extérieurs, et encore bien imparfaitement, comme le soulignera Jésus. Mais leur cœur n'était pas engagé. Ils ne veulent pas recevoir la vie. Ça, c'est un comble. Hein? C'est Jésus qui le dit. Ça, c'est terrible. La vie éternelle qu'ils recherchent et espèrent obtenir par l'observation de la loi de Moïse, dans la réalité, ils ne la veulent pas vraiment. Parce que, telle que la leur présente Jésus, elle les oblige à renoncer à leur orgueil, à tout ce qui fait leur position sociale à laquelle ils tiennent tellement. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu, leur dit Jésus. Alors ça, c'est aussi un comble. Toute leur vie est faite d'actes qu'ils pensent être des actes de piété, mais ce n'est pas l'amour pour Dieu qui les motive, mais seulement une piété sèche et tatillonne. Et c'est finalement peut-être, et même surtout, parce qu'ils cherchent à être applaudis les uns par les autres et ne cherchent pas la gloire qui vient de Dieu seul. Jésus touche là à la grande racine du problème humain depuis la chute en Éden. le désir d'être comme Dieu et autonome. Et cela d'après Jésus, on l'a lu, hein, verset 44, leur barre le chemin de la foi. D'ailleurs, leur dit Jésus, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? On voit dans ce diagnostic saisissant que Jésus pose de l'état de leur cœur que c'est finalement leur orgueil qui les empêche de parvenir à la foi et de recevoir la vie éternelle. C'est le refus tout à fait conscient et volontaire d'accepter la vie que seul le prince de la vie peut leur donner. On peut donc dire qu'ils se condamnent eux-mêmes. C'est ce que Jésus va finalement leur dire au verset 48. C'est ce Moïse dont ils se recommandent tant qu'il les accusera devant le Père parce qu'ils n'ont pas cru à ses écrits qui parlent d'un bout à l'autre du plan rédempteur de Dieu, plan qui passe par l'œuvre du serviteur de l'Éternel, le Messie promis, le Christ, qui seul a reçu l'onction pour régler définitivement la question du péché. Nous avons vu précédemment qu'au jugement dernier, c'est Christ qui prononcera le verdict final sur tous les hommes. Mais pour le peuple juif, nous apprenons ici que ce sera sur la déposition à charge de Moïse pour n'avoir pas cru à ses écrits et avoir rejeté leur Messie, le Fils de Dieu. Autre conséquence de cette incrédulité invétérée, au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » C'est ce que l'apôtre Jean dira dans deux de ses épîtres. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 1, Jean avertit ses lecteurs, « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent bien de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Voilà pourquoi c'est le Fils de l'homme. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est déjà dans le monde. C'est là, cet autre, qui vient, qui était déjà là à l'époque de Jean, hein, qui vient en son propre nom et que les Juifs, et pas seulement eux, recevront. L'apôtre Paul prophétisera la même chose aux chrétiens de l'église de Thessalonique, pour la plupart des non-Juifs. Par exemple, en 2 Thessaloniciens 2, verset 3, Paul écrit « Le jour du retour de Jésus-Christ » n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. On voit donc que le diagnostic de Paul sur l'état du cœur de tous les hommes, là pas seulement les Juifs, rejoint celui de Jésus prononcé sur le peuple juif. Paul développe cela particulièrement dans son épître aux Romains où il dit que les hommes qui n'ont pas bénéficié de la révélation spéciale de Dieu, que Dieu a donnée de lui-même au peuple d'Israël, sont tout autant inexcusables, car ils ont contre eux deux témoins irrécusables, l'évidence du Créateur dans sa création, d'une part, et le témoignage de Dieu interne dans la conscience de chaque homme, d'autre part. C'est développé dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Alors, que devons-nous retenir de cette défense de Jésus? Eh bien, je pense que l'absence de foi chez ses adversaires juifs n'était pas une fatalité dont il n'était pas responsable. On entend dire souvent « Bah, écoute, moi, j'ai pas la foi, j'y peux rien. » Pensez-vous que cet argument sera tenu pour valable au tribunal de Christ? C'est en réalité un mensonge habilement susurré aux hommes par le diable. Rappelez-vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, verset 40. D'après cette parole de Jésus, la crédulité est volontaire. C'est un refus conscient de l'offre de salut qui est offerte à ceux qui entendent l'Évangile. Jean l'a dit dans le prologue de son Évangile, chapitre 1, verset 10, « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, là c'est le peuple juif, et les siens ne l'ont pas accueilli. Le monde, c'est le monde entier. Les siens, c'est le peuple dont il est issu selon la chair, les juifs. Mais il ajoute cette parole magnifique, heureusement, au verset 12. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est là toute la beauté et la gloire de l'Évangile. La bonne nouvelle. L'incrédulité règne dans ce monde de ténèbres, mais certains accueillent la parole, c'est-à-dire Christ lui-même. Ainsi que le déclare Jean, l'auteur de cet évangile, dans un autre livre qu'il a écrit à la fin de sa vie, l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 11. Jean dit, là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle la parole de Dieu. C'est Jésus, la parole incarnée, que nous avons accueilli dans nos cœurs et qui nous donne la vie éternelle. Encore aujourd'hui, il dit à ceux qui ne lui ont pas ouvert la porte de leur cœur, même livre, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » S'il y a une personne dans cette salle ce matin qui n'a pas encore ouvert la porte de son cœur à Jésus, quelle que soit la raison, c'est peut-être parce que c'est la première fois qu'il entend toquer la porte de son cœur. Ou peut-être, ce qui n'est pas la première fois, mais il n'ose pas lui dire d'entrer parce qu'il ne se trouve pas assez bien pour le recevoir. Je vous en prie, ne le faites pas attendre plus longtemps. Faites-le entrer. Il changera votre vie dès à présent et vous donnera aussi la vie éternelle. Je vous en supplie, ne soyez pas de ceux qui ne veulent pas venir à lui pour avoir la vie. Je propose de passer un petit moment dans le silence pour penser à cette lecture.